Chapitre 19, dans lequel un bout de conversation entre le baron de Haupertuis et le sympathique monsieur Bluette nous fixera sur les antécédents de ce dernier. Votre prison, monsieur le directeur, est beaucoup plus gaie que je ne me le figurais. Une vue superbe, un beau jardin. Il y a longtemps que vous êtes ici. 3 mois exactement, 3 mois. J'y suis entré le même jour que cet excellent blaireau. C'est pourquoi j'éprouve tant de sympathie pour lui. Je comprends cela, oui. Et avant d'être à Montpaillard, j'ai commencé ma carrière par cet établissement. Auparavant, j'habitais Paris. Ah, si on m'avait dit il y a seulement 3 ans que je deviendrais directeur de prison, j'aurais bien ri. Vous vous destiniez sans doute à d'autres fonctions. Oh, je ne me destinais à rien, je m'amusais. Ma foi, je ne regrette rien, car vraiment, je me suis bien amusé. Tout est là, les femmes, sans doute. Les femmes, oui, surtout une, à la bonne heure. Oui, c'est à une femme que je dois mon entrée dans la carrière administrative. Elle s'appelait Alice, nous nous adorions. Tel que vous me voyez, baron, j'étais un simple rentier. Alice eut bientôt fait cesser cette situation anormale. Elle jetait l'argent par les fenêtres, et moi, je le regardais tomber. C'était très gai, ruiné par les femmes. Permettez-moi de vous serrer la main. Pas par les femmes, non, par une femme. Ce n'en est donc que plus flatteur. Alors, complètement décavé, je sollicitais une place du gouvernement. À cette époque, j'étais cousin du ministre. Ah, vous n'êtes plus son cousin. Oh non, c'est lui qui n'est plus ministre. Il eut juste le temps de me nommer à Montpaillard. Heureusement, car mes moyens ne me permettaient plus que d'être prisonnier moi-même ou directeur de prison. Je n'hésitais pas une minute. Je n'ai pas la peine de le croire. Et mademoiselle Alice. Alice, de son côté, fit connaissance d'un monsieur âgé, fort riche, mais la chère petite ne m'a pas oublié. J'en ai actuellement la preuve. Tous mes compliments, mon cher Bluette. Je ne m'attendais pas à trouver chez un directeur de prison un aussi charmant homme, et je suis enchanté d'avoir fait votre connaissance. Tout l'honneur est pour moi. Me ferez-vous le plaisir de visiter mon petit établissement? Ah, dame, ce n'est pas la prison de Fresnes. Mais très volontiers, cher monsieur. Les quelques mots échangés sur Alice avaient fait naître au cœur de Bluette le soudain remords de laisser la pauvre chérie en solitude aussi prolongée. Avant de commencer notre petite promenade, baron, je vous demanderai l'autorisation de m'occuper de quelques détails de service. Faites, mon cher directeur, faites. L'administration, avant tout. Et Bluette courut retrouver Alice, qui l'embrassa de tout son cœur, et même à plusieurs reprises, croyons-nous pouvoir affirmer. Chapitre 20, dans lequel Blaireau révèle la malsaine livrée de la popularité. Bluette n'avait pas plutôt les talons tournés que maître Guilloche faisait une nouvelle et brusque irruption. « Ah, bonjour, baron, vous allez bien ? Fort bien, et vous aussi, n'est-ce pas ? Car, si j'en juge par le volume de votre serviette, les affaires de la chicane doivent être les plus prospères. Le fait est que la serviette que portait maître Guilloche sous son bras semblait bondée à éclater. Dites-moi, baron, Bluette est-il absent pour longtemps ? Oh, pour peu d'instants, je crois, il s'occupe de donner quelques ordres, m'a-t-il dit. Bon, alors pas de temps à perdre. Blaireau, je vous apporte des habits. Des beaux habits ? Des habits magnifiques. Oh, tant mieux. Il n'y a rien que j'aime tant comme les beaux habits. Si j'avais eu de la fortune, il n'y aurait jamais eu dans le pays personne d'aussi bien habillé que moi. Tenez, les voici vos habits. Guilloche extirpait de sa serviette un costume complet, dont la vue fit immédiatement pousser des cris d'horreur à M. de Haupertuis et des clameurs d'indignation à Blaireau. Un costume à décourager, tout à la fois le crayon de Callot et la palette de Goya. Des harnes sans forme, des guenilles sans couleur définissable, avec des trous, des accrocs, enfin, toute une hideuse et terne polychromie de raccommodage de pièces. D'abord, suffoqué presque jusqu'à l'asphyxie, Blaireau, maintenant, croyait à une farce, à une excellente farce de son avocat. Ah, vous en avez de bonnes, monsieur Guilloche. Allons, Blaireau, vite, nous n'avons pas de temps à perdre. Que je me mette ça sur le dos? Ben, évidemment. Alors, c'était sérieux. Blaireau ne comprenait plus. Mais vous vous moquez de moi, pas vrai? Je ne me moque pas de vous, Blaireau. C'est bien le costume que vous allez mettre pour votre sortie de prison. Vous appelez ça un costume, vous? Eh ben, vous n'avez pas peur. Jamais je ne me montrerai dans la rue avec des loques comme ça sur le dos. Un innocent? De quoi que j'aurais l'air, voyons. Mais si, mais si. Il y aura plus de 500 personnes à la porte de la prison attendant votre sortie. Vous ferez un certain effet, je vous le garantis. J'ai pas de peine à le croire avec cette défroque-là. Ah non, non, je ne veux pas. Mais vous ne comprenez donc pas, grand enfant que vous êtes, que plus vous serez ignoblement vêtu, plus la pitié publique ira vers vous. Demandez plutôt à monsieur de Haupertuis. Oh, c'est évident, appuya le baron. Alors, s'écria Blaireau, vous, monsieur le baron, vous consentiriez à vous habiller avec ça? Dans les circonstances habituelles de la vie, non, mon ami, non, mais dans la situation actuelle, je n'hésiterai pas une seconde. Quand la foule vous apercevra, vous serez certainement acclamé. Et même porté en triomphe, appuya Guilloche. D'ailleurs, la manifestation est admirablement organisée. Ces messieurs du parti sont en train de répéter. Cette assurance d'un triomphe prochain décida Blaireau. Allons, allons, pas chez moi, vos fripes. En un tour de main, il avait quitté ses propres vêtements et endossé les haillons sordides. Un cri d'admiration échappa à Guilloche. Vrai, Blaireau, vous êtes superbe! Le baron assura son monocle. Oh, et pas tant, mon ami, très chic! Au fameux bal des haillons que donna la duchesse cet hiver, je ne me souviens pas avoir remarqué guenille plus pittoresque. Oh, c'est égal, monsieur le baron, j'aimerais mieux un petit complet dans le genre du vôtre. Je vous donnerai l'adresse de mon tailleur. Encore, j'aurais touché l'argent de la fête. Un éclat de rire l'interrompit. C'était Bluette qui, tout à coup, apercevait cette mascarade. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon pauvre Blaireau, comme vous voilà fichu. C'est moi, expliqua Guilloche, qui me suis permis d'apporter quelques effets à mon client. Il n'avait rien de convenable à se mettre. Alors, je ne vous cacherai pas, mon cher maître, que les règlements intérieurs de la prison ne m'autorisent pas à laisser affubler mes détenus de la sorte, même au moment du carnaval. Oh, j'avais pensé que, dans les circonstances présentes, je pouvais, en quelque sorte. Blaireau, maintenant, se trouve tout à fait chic, comme disait le baron. Et l'idée de son prochain triomphe l'exalte au point de lui faire perdre sa réserve ordinaire. Il est désormais dans la peau du bonhomme. Eh ben, il manquerait plus que ça, par exemple, s'écria-t-il. Après avoir souffert ce que j'ai souffert, je n'aurais plus le droit de m'habiller comme je veux. Oh, ce serait trop fort. Chapitre 21. Dans lequel le baron de Haupertuis fait tout ce qu'il faut pour justifier le mot de la fin. Quand Bluette mit, provisoirement d'ailleurs, un dernier baiser sur la nuque d'Alice, en lui disant Je serai tout à toi dans quelques minutes. En ce moment, mon bureau est plein de monde. Il commit la grande faute de ne point préciser les noms et qualités des encombrants. Il aurait de la sorte évité non point un malheur, car l'aventure tourna mieux qu'on aurait pu l'espérer, mais une complication dangereuse. Au nom du baron de Haupertuis, Alice, ou si vous aimez mieux Delphine de Serquigny, eût bondi comme dans les mélodrames. « Cet homme ici !» Le nom du baron n'avait jamais été prononcé entre Alice et Bluette. À quoi bon parler de ces choses-là? Et quand Bluette, racontant au baron une partie de sa vie, citait sa mignonne Alice, M. de Haupertuis était à 100 lieues de croire que cette charmante femme constituait la même personne que sa bien-aimée Delphine à lui. Et voilà, comme la vie ménage de ses surprises et de ses rencontres, beaucoup plus ingénieuses que celles qu'imaginent nos ténébreux dramaturges ou nos vaudevillistes les plus farces, comme dit le critique. Restée seule, la joyeuse Alice s'ennuyait ferme, et comme l'oisiveté est mauvaise conseillère, notre jeune amie n'hésita pas à commettre un de ces actes que les censeurs les plus indulgents sont unanimes à traiter d'anti-administratifs. Découvrant dans un magasin un lot de vêtements destinés aux détenus, elle en choisit un à sa mesure approximative et s'en affubla. Autant pour se mettre à son aise, du couti, c'est frais l'été, que pour causer une surprise à Bluette quand il la reverrait ainsi costumée. Ajoutons que notre petite camarade était tout à fait gentille sous ce généralement hideux uniforme, tant il est vrai que la jeunesse et la grâce suffisent à embellir non seulement tout ce qu'elle part, mais encore tout ce dont elle se part. Après avoir dignement savouré cette pensée délicate et bien originale, rentrons au vif de l'action. Comme il fait très chaud, Alice n'a rien trouvé de mieux que de pénétrer dans le plus frais cachot de la prison et de s'y installer et d'y lire les journaux de Paris que précisément le facteur vient d'apporter. Elle est bien à son aise avec ce léger costume qu'elle ne craint point de salir. Ses cheveux sont défaits et roulés dans une calotte de toile. On la prendrait ainsi pour un pauvre petit jeune homme, coupable sans doute, mais si gentil que le tribunal aurait bien dû l'acquitter. Quand on a cette frimousse-là et ces grands yeux expressifs, on ne doit pas être un bien redoutable malfaiteur. Pauvre petit prisonnier. Cependant, Bluette faisait au baron les honneurs de son établissement. Ils avaient visité les cellules, les ateliers, le réfectoire. À part là, ce sont les cachots où l'on enferme les malfaiteurs dangereux, provisoirement confiés à ma garde, ou les mauvaises têtes. Ces cachots, depuis ma direction, ont toujours été vides. Si vous désirez y jeter un coup d'œil. Et, ainsi que le lecteur s'y attend peut-être, ce fut précisément le cachot où résidait Alice, dont Bluette entr'ouvrit la porte. Ici, une véritable scène de théâtre, facile à se figurer. Grâce à son excessive myopie, le baron n'aperçut point les grimaces désespérées qu'Alice adressait à Bluette et dont ce dernier, par bonheur, devina la signification. Pas de doute, l'ami, le seigneur et maître d'Alice, c'était lui, monsieur de Haupertuis. Épineuse, ô combien la situation! Bluette cherchait à emmener le baron, mais en vain, le baron venait d'affermir son monocle et murmurait. Ah, voilà bien la plus étrange ressemblance que j'ai jamais constatée de ma vie. Allons bon, ça y était. Il allait la reconnaître maintenant. Et que se passerait-il ensuite? Comment expliquer? Bluette n'en menait pas large. Alice, elle, n'avait pas perdu son sang-froid un seul instant. Quelle étrange ressemblance! Répétait le baron. Mais quel est ce jeune homme? « Mon cher Bluette, Oh, c'est un garçon qui vient d'être condamné pour vagabondage. Un excellent sujet, à part ce détail. Avez-vous une famille, mon ami, des parents? Alice se souvint qu'elle avait joué la comédie jadis. Elle prit une attitude humble et donna à sa voix le timbre rocailleux des personnes de basse culture mondaine. Hélas, oui, mon bon monsieur, répondit-elle. J'ai une famille, une brave famille, dont je fais le désespoir. Ma pauvre sœur, surtout. Ah, vous avez une sœur, mon ami, de quel âge? 23 ans, monsieur. Oh, mon Dieu! Qu'avez-vous, monsieur le baron? Demanda Bluette. Mais juste l'âge de Delphine, pensait Aupertuis. Et où habite-t-elle? Continua-t-il en s'adressant au jeune détenu. À Paris, monsieur, je puis bien dire que je vous en ai causé du désagrément à ma pauvre sœur. Son nom? Delphine, monsieur. Mon pressentiment ne me trompait pas. Oh, c'est affreux. Mon cher monsieur Bluette, ce pauvre garçon est le frère de Delphine, le propre frère de mon ami. Étrange rencontre, baron! Oh, on ne pourra jamais soupçonner les drames qui se passent dans les prisons. Continuez, mon ami, racontez-moi votre existence. Pourquoi êtes-vous ici? Oh, monsieur le directeur vous l'a dit, monsieur, pour vagabondage. Toute ma vie, je fais que vagabonder. C'est plus fort que moi, il faut que je vagabonde. Ma sœur a beau m'envoyer de l'argent, je le dépense à mesure. Ah, je peux dire que je lui coûte cher à celle-là. Votre sœur vous envoie de l'argent? Pas à moi seulement, monsieur, mais à toute la famille. À deux ou trois frères que nous avons dans le Midi, à son vieil oncle infirme, à une tante malade. Elle s'y trouve en ce moment chez cette tante malade? Pauvre Delphine, quel cœur! Brave, brave fille! Oh, c'est la providence de la famille, monsieur, sans elle, nous serions tous morts de faim depuis longtemps. Mais voilà, elle pourra peut-être pas toujours nous en envoyer de l'argent. Et alors? Monsieur de Aupertuis eut un beau geste. Rassurez-vous, mon jeune ami, jamais votre sœur ne manquera d'argent, je crois pouvoir vous l'affirmer. Vous la connaissez donc, monsieur? J'ai cet honneur. Oh, pauvre Delphine, sans nous, elle serait une honnête fille. Elle n'aurait pas été obligée de mal tourner. Mais, mon ami, ne croyez pas que votre sœur ait mal tourné. Vous vous tromperiez beaucoup. Elle n'est pas positivement mariée, mais elle a un ami sincère, dévoué, riche, qui ne la laissera jamais manquer de rien, ni pour elle, ni pour sa famille. Elle le mérite bien. Quant à vous, mon jeune ami, prenez ceci en attendant. Il lui glissa un billet de 100 francs dans la main. Oh, merci, monsieur, vous êtes trop bon. Par amitié pour moi, monsieur le directeur, voudra bien vous traiter avec indulgence, n'est-ce pas, monsieur Bluette? Je le traiterai de mon mieux, répondit modestement le fonctionnaire. Au revoir, mon cher directeur. Ah, cette rencontre m'a serré le cœur. Ah, la vie est pleine d'étranges choses. Et vous, mon jeune ami, bon courage. Oh, ne me plains pas, monsieur le directeur est très bon pour moi. Quand elle fut seule, Alice ne put s'empêcher de murmurer. Oh, décidément, c'est un brave homme. Mais quelle poire! Chapitre 22, dans lequel il se passe plusieurs événements dont aucun ne revêt un caractère de gravité exceptionnelle. Bluette tint à reconduire lui-même le baron jusqu'à la grande porte qui donne sur la rue. Ils se félicitaient mutuellement d'avoir fait leur charmante connaissance et prenaient congé quand un monsieur entre deux âges, officier de la Légion d'honneur, se présenta, l'air aimable à la fois et légèrement ironique. « Monsieur Bluette, sans doute ?»«
Lui-même, monsieur. »«
Je suis monsieur Devoix, inspecteur des prisons. »«
Ah, parfaitement, monsieur. Enchanté. »
Je connaissais beaucoup votre prédécesseur. Croyez que je suis heureux de me trouver en contact avec vous.
Oh, moi de même, monsieur.
On m'a parlé de vous en haut lieu, comme d'un homme des plus distingués et fort au-dessus de la fonction qu'il occupe.
On a été trop flatteur pour moi en haut lieu.
Il paraît même que vous avez transformé votre prison en une sorte de petit Éden, quelque chose comme une confortable pension de famille.
Je fais de mon mieux.
C'est dans ce cas que le mieux est l'ennemi du bien. Une prison, mon cher monsieur Bluette, n'est pas un casino.
À qui le dites-vous?
Et sans transgresser les lois de l'humanité, il faut user de rigueur avec messieurs les condamnés, desquels le nombre augmenterait terriblement si on les traitait partout comme dans la prison de Montpaillard, c'est-à-dire en passagers de première classe.
Pauvres gens.
Mais à propos, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'erreur judiciaire dont j'ai entendu parler ce matin à la sous-préfecture?
Elle est exacte, monsieur l'inspecteur. Un de mes détenus avait été condamné injustement. Le véritable coupable s'est dénoncé hier et a fait des aveux complets.
C'est curieux. J'attends l'ordre du parquet pour mettre mon homme en liberté. Et notre ami Bluette, que les ironies de l'inspecteur au lieu de l'intimider mettaient plutôt en verve, ajouta d'un ton faussement humble, « Je me permettrai même de faire remarquer à monsieur l'inspecteur que, malgré certaines petites irrégularités que je suis le premier à déplorer, la prison de Montpaillard ne renferme pas moins un innocent. »
Et je vous en félicite. Il y a beaucoup de prisons mieux tenues qui ne pourraient pas en dire autant.
C'est une bonne note, en effet. Tout en causant, ces messieurs étaient arrivés devant le cachot dans lequel la jeune Alice, tout en lisant ses gazettes, fredonnait un petit air assez folâtre. À cette minute, notre amie Bluette, songeant à son avancement, se sentit envahie par les plus mornes pressentiments. Il toussa avec une violence peu commune et un acharnement digne d'un meilleur sort. Trop tard, hélas, l'inspecteur a poussé la porte du cachot.
« Allons, fait-il, on ne m'avait pas trompé en haut lieu. Votre établissement, monsieur Bluette, est un établissement gai. Quel est ce jeune détenu, ce joli merle qui chante en cage ?»
Pour le coup, Bluette perd un peu le nord.
Oh, ce jeune détenu, c'est... Oh, comment déjà s'appelle-t-il? Chose, machin...
Oh, c'est trop fort. Vous avez 43 malheureux prisonniers. Vous ne les connaissez pas.
Si, monsieur l'inspecteur, je le connais, mais je ne me rappelle plus son nom.
Oh, du reste, cela n'a aucune importance. Comment cela n'a aucune importance?
Aucune, puisque ce garçon est innocent. C'est l'innocent dont nous parlions tout à l'heure.
Oh, étrange prison, décidément. Vous avez un innocent et vous le mettez au cachot. Il est vrai que le pauvre garçon n'a pas l'air de s'y ennuyer outre mesure. Sortez, mon ami, ce n'est point ici votre place.
Victor, le gardien, apporte une carte à Bluette.
Ce monsieur insiste pour être reçu tout de suite.
Jules Fléchard, professeur de gymnastique. Oh, dites-lui de repasser plus tard.
Pourquoi cela? Fait l'inspecteur.
Allez recevoir ce monsieur. Je continuerai seul ma tournée en vous attendant.
Bluette obéit, mais avec quelle inquiétude au cœur.
Ah, mon Dieu, que va-t-il se passer? Gémit-il. Ma carrière administrative me paraît singulièrement compromise. L'inspecteur continue à s'occuper du jeune détenu. Alors, mon ami, vous êtes innocent. Votre physionomie n'est point celle d'ailleurs d'un redoutable criminel. Pour quel motif aviez-vous été condamné ? Oh, ma foi, répond Alice avec un aplomb imperturbable, je m'en souviens plus bien. Un tas d'histoires. Vous ne vous souvenez plus à quel propos vous avez été condamné ? Oh, naturellement, je m'en souviens plus puisque c'est pas moi qui suis le vrai coupable. Oh, cela n'empêche pas. Mais pourquoi voulez-vous que je me rappelle les crimes des autres ? Tout cela n'est pas clair. La prison de Montbaillard est décidément une étrange prison et son directeur un bizarre fonctionnaire. Mais Alice ne peut entendre blâmer son ami sans protester. « Oh, ne dites pas de mal de Bluette !» s'écria-t-il. « Il est très chic !» Hélas, la courageuse protestation d'Alice va droit à l'encontre de son attention si pure. Ce mot très chic et surtout le ton sur lequel il a été lancé a dessillé. Dessiller est un terme de vénerie qu'on écrit à tort dessiller avec deux S. Le verbe scier signifie coudre les paupières d'un oiseau de proie pour le dresser. Les yeux de l'inspecteur, très chic, répète-t-il. Comme vous avez dit cela, mais Dieu me pardonne. Voulez-vous avoir l'obligeance d'enlever votre calotte ? Voilà, monsieur l'inspecteur. Le flot brun des cheveux d'Alice déferle sur ses épaules et sur son dos. Attrape ! Avec une grâce infinie, monsieur l'inspecteur s'est découvert. Il s'incline et salue. Madame ? Monsieur l'inspecteur ? Au cours de sa carrière, monsieur l'inspecteur en avait vu de raides, mais celle-là vraiment dépassait les limites permises de la fantaisie administrative. Une jeune femme en costume de prisonnier qui lit le Figaro en chantant des airs d'opérette au fond d'un sombre cachot. Ah, voilà du pas banal. Monsieur l'inspecteur est fort perplexe. Son chapeau à la main, il contemple Alice, la jolie Alice, car elle est jolie, la petite Martine, dans son travesti improvisé. Ah oui, il est perplexe, monsieur l'inspecteur. Mais soudain, la gravité de sa physionomie fait place au plus enjoué des sourires. La vieille galanterie française a reconquis ses droits. Vous êtes délicieuse ainsi, madame. Mais vous plairait-il de me dire par quel curieux concours de circonstances vous vous trouvez dans ce costume et dans ce cachot? Oh, une simple fantaisie personnelle, monsieur. Je vous assure que monsieur Bluette ignorait complètement ma petite mascarade et qu'il a été aussi surpris que vous de me voir dans ce costume. Qui vous va admirablement, d'ailleurs. Jamais je n'aurais cru que des effets généralement portés avec tant d'inélégance puissent être aussi séants à une jolie femme. Oh, vous me flattez, monsieur l'inspecteur. Mais non, je vous assure, vous êtes très gentil. Eh bien, puisque vous me trouvez gentil, promettez-moi de ne pas être méchant pour monsieur Bluette, qui est un si bon garçon. Je vous le promets, vous avez l'air de l'aimer beaucoup, votre chère Bluette. Beaucoup, beaucoup. Heureux homme, vous êtes charmante, madame. Et pour lui prouver sa réelle sympathie, il prend la main d'Alice et la garde dans la sienne. Vous êtes positivement charmante. Alors vous ne le gronderez pas? Soyez tranquille. Et même, vous lui ferez avoir de l'avancement? Oh, ça, ce sera peut-être plus difficile. Est-ce qu'on ne pourrait pas lui trouver une petite prison à Paris? Quartier des Champs-Élysées, ou à Passy plutôt? Oh, elle est adorable, ma parole. Oh, j'ai une envie folle de vous embrasser. Je veux bien, mais à la condition que vous n'oublierez pas la prison de Passy. C'est juré. Et complètement désarmé, monsieur l'inspecteur embrassa la jeune femme. Chapitre 23, dans lequel on démontre administrativement qu'il est parfois aussi difficile d'entrer en prison que d'en sortir. Mettant de nouveau à contribution ce curieux privilège dont j'ai parlé plus haut et qui confère au romancier le pouvoir de jouer avec le temps comme avec l'espace, je vais, messieurs et mesdames, si vous y consentez, vous rajeunir pour un instant de 24 heures. Reprenons les choses où elles en étaient quand notre vieux camarade Jules Fléchard, après l'impressionnante scène des aveux chez les Chaville, se dirigea résolument vers le parquet, à la fois soutenu par le doux souvenir d'Arabella, lui murmurant « Courage, ami !» Oh, de quelle voix au ciel ! Et par les civiques exhortations de Maître Guilloche, son avocat improvisé. Au parquet, ces messieurs furent reçus froidement. En l'absence du procureur, un vieux commissaire greffier tenta de leur démontrer la parfaite inanité de leur démarche. « Croyez-moi, mes amis, rentrez chez vous et ne reparlons plus de cette affaire. »« Mais pourtant, ce sera beaucoup plus raisonnable. Le tribunal s'est trompé, dites-vous, en condamnant Blaireau à votre place. Bien possible. Mais c'est une affaire entre le nommé Blaireau et vous, monsieur Fléchard. »« Ah, là, la question est plus haute, » protestait l'avocat. « Non, mon cher maître, la question n'est pas si haute que vous le dites. » Blaireau a fait 3 mois de prison pour le compte de M. Fléchard. C'est à ce dernier à dédommager Blaireau. À raison de 20 sous par jour, et c'est bien payé. Cela nous fait une somme de 90 francs. Mettons 100 francs pour faire un compte-rond. Donnez 100 francs à Blaireau et ne parlons plus de cette affaire-là. Nous reviendrons demain matin et nous verrons si M. le procureur tiendra le même raisonnement que vous. S'il en tient un autre, il aura tort et servira mal les intérêts de la justice. Intérêts plus considérables et plus augustes que ceux d'un simple citoyen comme vous. Soit dit sans vous fâcher, monsieur Fléchard. Et se levant, le vieux greffier leur indiqua que l'entrevue avait pris fin. Le professeur de gymnastique passa une mauvaise nuit. Si pourtant les magistrats se refusaient à prendre au sérieux ses déclarations, et si on ne consentait pas à le mettre en prison, que dirait Arabella de Chaville? Car ce qu'elle aimait en lui, et il le comprenait bien, c'était la victime autant que le héros. Sans prison, pas de mariage. De la naissance et de la particule, romanesque jeune fille pouvait se moquer, mais pas de l'auréole. Une auréole, mais l'auréole du martyr. Il la fallait à Fléchard, coûte que coûte. Une auréole, mon royaume pour une auréole. Aussi, dès le lendemain matin, frappait-il à la porte du procureur. « Ah ! S'écria le magistrat, « C'est vous le nommé Fléchard, Jules ?»« Eh bien, le nommé Fléchard, Jules, a raté une belle occasion de se tenir tranquille, juste au moment des vacances. Mais c'est cette époque-là que vous choisissez pour faire ce joli coup ?» Fléchard répondit en baissant la tête. « Oh, monsieur le procureur, le remords ne choisit pas son jour. » Le remords, oh, fichez-moi la paix avec votre remords. Le remords de quoi? D'avoir administré une raclée à cet idiot de garde champêtre? D'avoir laissé condamner à votre place cette fripouille de Blaireau? Il n'y a pas de quoi fouetter une puce dans tout cela. Allons, mon ami, rentrez chez vous et qu'il ne soit plus jamais question de cette ridicule histoire. Je vous demande bien pardon, monsieur le procureur, de ne pas être de votre avis, mais je tiens à être incarcéré au plus vite. Incarcéré, non! enfermé dans une maison de fous, plutôt. Allez-vous-en, mon ami, allez-vous-en.
Monsieur le procureur, je vous préviens que si vous ne voulez pas me mettre en prison, je m'adresserai à une juridiction supérieure.
On vous enverra promener.
Je ne me laisserai pas rebuter. Et j'irai, s'il le faut, jusqu'au garde des Sceaux.
Écoutez, Fléchard, voulez-vous être raisonnable et remettre cette affaire-là plus tard, après les vacances ?
Non, je veux coucher en prison ce soir même.
Oh, je commence à croire que j'ai devant moi un dangereux monomane. Gare la douche.
Oh, merci bien, j'en ai pris une ce matin.
Pas assez forte, sans doute. Allez-vous-en. Et saisissant Fléchard par le bras, le magistrat mit notre pauvre ami à la porte.
Dans l'après-midi, Fléchard prit une résolution héroïque. Après avoir composé un petit ballot d'effets de rechange et d'objets de toilette, il se dirigea vers la prison.
« Monsieur Bluette, pensait-il, est un excellent garçon. Je le connais. Il ne me refusera pas de m'admettre dans son établissement, au moins pour quelques jours. »
En chemin, il rencontra le maire, furieux, qui lui dit « Ah, voilà vous ! Ah, vous pouvez vous vanter d'en avoir fait un joli coup. Il y a devant la maison au moins 300 imbéciles qui attendent la sortie de Blaireau pour le porter en triomphe. Malgré tout son ennui, Fléchard ne put s'empêcher de dire « Ça va être très drôle » éclata-t-il. « Très drôle, en effet. Ah, si nous avions de la troupe à Montpaillard, c'est moi qui ferais fusiller tous ces gens-là. »«
Vous n'y allez pas de main morte, monsieur le maire. »«
Voyons, Fléchard, soyez sérieux. Tenez-vous toujours à vous déclarer coupable. Il est encore temps. »
Oh, plus que jamais, monsieur le maire, et je vais de ce pas me constituer prisonnier.
Alors que tout le désordre qui va révolutionner Montpaillard retombe sur votre tête.
À la prison, Fléchard trouva Bluette, tourmenté, inquiet, et, contrairement à son habitude, de fort méchante humeur. Et il y avait de quoi. C'est un inspecteur qui tombait juste sur Alice déguisée en détenue. Qu'est-ce qui allait résulter de cette aventure ? Mon Dieu, la révocation, sans nul doute.
Vous, Fléchard, que désirez-vous ?
Vous êtes sans doute au courant de la situation, monsieur le directeur.
L'affaire Blaireau, oui, c'est vous le coupable.
Parfaitement.
Et après ?
Après, je viens me constituer prisonnier.
Avez-vous un papier ?
Non, monsieur le directeur.
Oh, une lettre, un mot du parquet.
Je n'ai rien.
Et vous vous imaginez que je vais vous coffrer comme ça de chic ?
Ah, vous êtes étonnant, ma parole d'honneur. Ah, alors, il faut des recommandations maintenant pour entrer en prison ?
Mais certainement. Ah, toujours la faveur, alors. Le népotisme. Pauvre, pauvre France. Au revoir, Fléchard. Tâchez de vous faire une raison.
C'est bien entendu, vous ne voulez pas me recevoir.
Je vous dis que non, là, allez, fichez-moi le camp.
On venait de frapper à la porte du bureau.
Ah, c'est encore vous, Blaireau, mais que désirez-vous ?
Oh, c'est pas pour vous faire un reproche, monsieur le directeur, mais... je trouve que vous y mettez du temps à me relâcher.
Impossible, avant que j'aie reçu l'ordre du parquet.
Oh, nom d'un chien, c'est trop fort. Non seulement j'ai fini mon temps, mais encore je suis reconnu comme innocent, et on ne veut pas me lâcher.
C'est trop fort, mille pétards de bon sens, c'est trop fort, on n'a jamais rien vu de pareil.
« Oh, mon cas à moi !» s'écria Fléchard encore plus fort. « Je suis coupable et on veut pas me coffrer. »«
Mon pauvre ami, » dit Bluette, « si on devait mettre tous les coupables en prison, on n'y arriverait pas. »«
Ah, elle est propre, la justice. Pauvre France !» Et il murmura, « Que va penser Arabella ?»
Blaireau, lui, était arrivé au comble de l'exaspération.
Ah oui, pauvre France, c'est bien le cas de le dire. Attends un petit peu que je sois sorti de prison, puis je vais te l'arranger, le gouvernement. » Quant à Fléchard, il regagna son domicile d'un air plus las encore et plus navré que de coutume.